Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à tous, je vous emmène ce matin nager avec les poissons multicolores, au large de Sharm el-Cheikh, voguer sur le Nil, déambuler dans la vallée des rois à Louxor, et redécouvrir le trésor de Toutankhamon, avant de savourer un thé sur le balcon de Titi, place Tahrir. Qu'en pensez-vous, Yasmine Abenari? C'est une bonne idée, non?
Le balcon de Titi, oui, très bien. Moi, je pense que c'est un bon passage, un petit passage touristique.
Ouais, vous êtes réalisatrice, artiste, cosmopolite. Vous avez bourlingué entre la Belgique, la France et l'Égypte, où vous venez de tourner justement un long métrage documentaire au balcon de Titi. Mais qui est ce fameux Titi?
Alors, Titi s'appelle en fait Albert Arrier. Titi pour les intimes. C'est un homme qui maintenant a 89 ans. C'est l'un des derniers juifs d'Égypte, qui est resté en Égypte, qui n'est pas parti. Communiste, qui a fait 11 ans de prison sous Nasser. Voilà.
Un personnage. Alors moi, je vais vous présenter un autre fringant jeune homme, encore plus âgé que votre Titi. 93 ans, rescapé d'Auschwitz, il a fondé la première école de plongée en mer Rouge dans les années 60. Il s'appelle Paul Sobol. C'est un homme fabuleux. Moi, il est dans mon panthéon, là, très haut. Il en a bavé, évidemment, dans les camps de concentration, mais il va toujours de l'avant. À 3 fois 31 ans, aujourd'hui, il va nager tous les jours, par exemple. Il fait 3 minutes d'apnée, moi je tiens 45 secondes. Et en plus, il va témoigner dans les écoles pour dénoncer le nazisme et la montée de l'extrême droite. Ce sera notre Belge du bout du monde à découvrir dans quelques minutes. Avec nous dans ce studio aussi, un autre amoureux de l'Égypte, un Titi d'Alexandrie et de l'âne. Bonjour Richard Rivet.
Je suis pas né à l'âne, je suis né à Uccle.
Mais comme Yasmina, vous avez des racines multiples.
Bah, j'ai carrément un papa égyptien. Oui.
Oui. Vous aussi Yasmina, hein?
Oui.
Oui. Et maman alsacienne.
Née à San Salvador, parce qu'elle est née en 39.
Ouh là là. Je
vous laisse réfléchir. Pour ouais.
À tel point que si Yann Yambon avait dû vous envoyer dans votre pays d'origine...
Il serait obligé de m'offrir un tour du monde gratuit. Je vois que vous êtes fidèle à mes spectacles.
Avec nous aussi, le dernier lauréat de la Belge Odyssée, Milan Berkmans. Après 6 mois de stage intensif dans notre rédaction, vous tenez le coup, tout va bien?
Ouais, tout va bien, c'est une belle expérience, c'est très chouette d'être avec vous.
Ouais, et aujourd'hui, vous allez nous parler...
Je vais vous parler un peu de politique et un petit peu de tourisme.
D'accord. En Égypte, avec aussi l'histoire de cette fabuleuse civilisation.
Les Belges du bout du monde, sur la première...
Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet égyptien reggae, Jonathan Richman, en 1977. Vous n'étiez pas né, hein, Yasmina. Richard, oui.
Oui,
quand même.
J'avais 10 ans.
Milan Berkmans, non. Alors, évoquer l'Égypte, ça va nous ramener encore plus tôt, plusieurs siècles en arrière, vers l'Antiquité, période pendant laquelle les Égyptiens inventent le parchemin, bâtissent des pyramides, une période de l'histoire qui fait rêver et donne envie de découvrir ces terres ocres du nord de l'Afrique, sur les traces des pharaons, Milan.
Oui, vous l'avez dit, Adrien, l'Égypte, c'est le berceau d'une des plus anciennes civilisations de l'histoire de l'humanité, une civilisation particulièrement intrigante pour les archéologues, dont elle continue de dévoiler ses secrets au fur et à mesure des découvertes de vestiges, des trésors historiques qui ont longtemps attiré des foules de voyageurs venus des quatre coins du globe.
Mais aujourd'hui, la situation est bien différente et les touristes, hormis notre famille royale, se font rares dans le pays. La faute à un contexte sécuritaire difficile, mais surtout à une image médiatique écornée.
Et oui, c'est peut-être le prix à payer pour une révolution, celui de l'instabilité. Depuis le printemps arabe de 2011, le tourisme a véritablement chuté autour des grands sites du pays. La faute aux vives tensions lors des manifestations ces dernières années, mais également aux attentats commis par les islamistes, principalement dans les grandes villes égyptiennes. Mais pour le voyageur téméraire, il s'agit peut-être d'une opportunité rêvée, celle de pouvoir enfin découvrir les pyramides dans le plus grand calme, loin de l'agitation du tourisme de masse. Les croisières sur le Nil sont devenues paisibles et permettent d'admirer les temples de Karnak, Philae et Louxor, les pyramides de Gizeh, les colosses de même nom, ou la vallée des rois en toute tranquillité, loin de l'image trouble donnée par les médias. Les rives égyptiennes du Nil ne demandent au contraire qu'à être redécouvertes par les voyageurs. Le tourisme ferait le plus grand bien aux populations locales que la crise sécuritaire a fait plonger dans une crise économique profonde.
Vous avez vécu 5 ans sur place, Yasmina Benari. Vous avez senti cette crise économique?
Oui, 7 en fait au final, ouais, ouais. En tout. J'ai senti cette crise économique. Ben, j'ai senti véritablement... En fait, au début, on était dans un moment d'utopie incroyable, les 18 premiers jours, on va dire. Et puis très vite, en fait, c'est descendu. D'abord, la première chose que j'ai senti au-delà de la crise économique, c'est la chute de l'espoir. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils pensaient que ça allait changer très vite et ils se rendent compte qu'en fait, non. Et là, c'est les gens dans la rue qui errent, qui attendent, qui ne savent pas ce qu'ils attendent. Une espèce d'espoir comme ça perdu. Et la crise économique s'est installée très très vite en fait, parce que autant je pense que c'est des images qui ont été admirées dans le monde entier, les gens ont beaucoup admiré en fait ce courage, autant ça a fait vraiment peur. Ouais.
Alors vous avez étudié à l'ULB, Sciences Po, vous avez développé vos connaissances pour le monde arabe contemporain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir vivre là-bas en Égypte?
Alors,
Le papa égyptien peut-être?
Mon père est né en Égypte, ouais, il n'a jamais eu la nationalité égyptienne. Et puis il est parti assez jeune en fait, il est parti à l'âge de 14 ans. Et du coup, bah, ça doit être que je suis égyptienne. Donc je pense que depuis toute petite, je me disais je vais arriver là-bas et je vais enfin me trouver. Il y a Yasmina qui m'attend là-bas quoi.
Et vous, Richard, vous êtes... parce que vous avez un peu le look égyptien.
Complètement d'accord. Le look, en fait, le visage, oui vraiment, c'est fort. Ouais.
Et vous, c'est le papa Alexandrie ?
Mais c'est vrai que mon papa, il est né à Alexandrie et il ressemble à cet acteur que je... Ben Gazzara, voilà. Et mon père a ce look un peu grisonnant. On peut pas nier d'où on vient, mais c'est vrai que c'est compliqué. Un juif d'Égypte, et ma grand-mère elle disait nous les Anglais, avec son accent égyptien, un peu syrien, parce que mes arrière-grands-parents étaient syriens. J'essaie de savoir pourquoi ils ont quitté la Syrie. Je crois savoir qu'on a été des réfugiés toute notre vie nous. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que dans nos familles il y a eu un tel traumatisme que j'entendais toujours ma grand-mère qui dit « Non, il ne faut pas aller en Égypte, c'est dangereux !» Et alors on disait « Ah, elle habitait la Suisse. Non, il ne faut pas revenir en France !» Enfin, tout est toujours dangereux. Et donc c'est une vie un peu tronquée. Et mon père a senti qu'il fallait qu'il parte. Je l'ai dit dans un de mes spectacles, il n'a pas quitté l'Égypte à cause de Nasser, mais à cause de sa mère. Ouf. Donc il pensait qu'il allait devenir un fils à papa. Il est allé en Égypte, il s'est battu, il a pris une bourse. Il a vécu dans un petit immeuble à Londres où il avait une douche à l'étage. Il a recommencé toute sa vie à zéro à 18 ans. Et je pense que ça vous poursuit toute votre vie. Comme ça, des racines, on a dû partir. Et l'histoire se répète. Ma grand-mère a dit « Nous avons quitté Alexandrie avec trois valises ». C'est vrai que mes grands-parents, ils ont tout abandonné. Ils avaient un petit peu de sous, ils étaient de la bourgeoisie sans plus. Ben, ils ont tout perdu, ils sont arrivés à Milan. Ils ont vécu à Milan quelques temps, puis ils sont partis à Lausanne en Suisse. C'est constamment, elle était apatride. Donc, quand vous dites dans votre famille, je suis d'origine égyptienne, il y a toujours un frère, une cousine, une sœur qui va vous dire, non, on n'est pas d'Égypte, on est anglais, on est français, ouais. On est juif, on est quoi? Et c'est pour ça que je supporte pas aujourd'hui le racisme, parce que nous sommes tous citoyens du monde.
Oui, et vous êtes belge et ça ne se voit pas.
Voilà, hein, c'était aussi... le titre ironique d'un de mes spectacles.
Oui. Je vais vous présenter maintenant une autre personnalité, un résistant comme Titi. Hein. Il a été emprisonné, mais il ne se plaint jamais. Au contraire, il s'émerveille devant les beautés de la vie et de la nature. Il s'appelle Paul Sobol, c'est notre belge du bout du monde. Son coup de foudre pour la mer date de sa vie intra-utérine il y a 94 ans.
Vous savez, nous avons tous vécu pendant 9 mois dans un liquide. Et donc, pour moi, retourner dans l'eau, c'était quelque chose d'évident. Et j'ai découvert la plongée un jour dans le midi de la France. J'étais là avec mes deux petits gosses et à Jean Lépin. Et je vois des gens qui mettent un masque et qui mettent leur tête dans l'eau. Je dis, ah bon, je peux voir. Et j'ai découvert là qu'il y avait des petits poissons dans l'eau. Parce que, on allait bien ici, chez nous, à la mer du Nord, mais vous savez, à la mer du Nord, vous voyez rien, c'est pas accueillant. Tandis que la mer Bleue, c'était quelque chose, une découverte extraordinaire. Et ça a changé toute ma vie. Et puis j'ai transmis le flambeau à mon fils, à Alain, qui maintenant, bon, en a fait son métier. Mais moi, c'était pas mon métier, moi, c'était vraiment mon hobby. Voilà comment ça a commencé il y a plus de 50 ans.
Une aventure qui a débuté aussi avec Arthur Rollot.
Oui, Arthur Rollot était un ami que j'ai rencontré. En fait, nous avons fait les camps de concentration de Dachau ensemble. Et lui, il était commissaire au tourisme. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute, est-ce que tu fais toujours de la plongée ?» Je dis « Mais oui, bien sûr. » J'ai monté une équipe de 6 personnes, nous sommes partis, ne sachant pas ce que nous allions trouver. Et finalement, nous avons trouvé une mer très accueillante, très importante pour nous à l'époque, c'était les amphores. Et puis, c'est comme ça que j'ai affrété un avion, j'ai lancé des gens là-bas. Et c'est comme ça que j'ai mis mon doigt dans le tourisme. Et puis alors, bon, je voulais trouver trouver la mer chaude, la plus proche de l'Europe. Et puis finalement, je suis tombé sur Eilat, dans le nord du golfe d'Aqaba, en mer Rouge. Et c'est là que l'aventure a commencé, avant la guerre des six jours, qui a ouvert le Sinaï aux Israéliens, qu'ils ont occupé pendant 15 ans. Et puis alors après 15 ans, il y a les accords de Camp David, et puis la remise du Sinaï par les Israéliens aux Égyptiens, et puis les Égyptiens, qui ne laissaient rien du tout en plongée sous-marine, m'ont demandé à moi de m'occuper de relancer la plongée sous-marine. Et c'est comme ça que l'aventure de Sharm el-Sheikh a commencé.
Vous plongez encore ?
Absolument, je vais régulièrement toutes les semaines au bassin de natation, je suis dans un club depuis toujours, et puis je m'entraîne, et puis alors deux fois par an, je vais passer 15 jours, 3 semaines là-bas en Égypte, au soleil, et je plonge, bien sûr. C'est un loisir à la portée de tout le monde.
De 9 à 99 ans au minimum, il en a encore pour 6, voire plus. Paul Sobol, qui est aussi l'auteur du livre « Je me souviens d'Auschwitz, de la croix d'étoiles de shérif à la croix de vie ». Sacré personnage, hein, comme votre titi, Yasmina.
Oui, il est incroyable, je trouve qu'il a une voix très jeune, j'aurais jamais deviné son âge déjà.
Ouais.
On sent qu'il est très dynamique, et puis c'est beau ce rapport à l'eau, je me sens assez proche de ça moi. La création de la plongée en Égypte, c'était lui, je ne savais pas du tout cette histoire.
Une histoire belge.
Non mais c'est magnifique, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est pendant des années dans nos familles, il y a eu la Shoah, et on n'en parlait pas beaucoup, puis ça s'est libéré dans les années, je dirais, 80, jusque-là il y a eu un tabou, et ce monsieur nomme les choses, hein. Il nomme les choses, c'est important. Et il dit « Oui, j'étais dans un camp ». Il rend ça tout à fait banal, alors que ce n'est pas banal, mais c'est une manière de l'affirmer. Oui, on s'est rencontrés dans les camps, c'est son histoire, c'est une histoire universelle des Juifs, du monde. Pour ne pas oublier, il faut nommer les choses. Et je trouve ça magnifique comme il en parle sans tabou.
On va écouter une autre Belge d'origine égyptienne, hein, pour un petit peu aérer cette émission musicalement. Elle s'appelle Natacha Atlas, avec sa reprise de Françoise Hardy sur La Première.
Les Belges du bout du monde sur La Première.
C'était Natacha Atlas sur les traces du Petit Prince de Saint-Exupéry. Souviens-toi, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Il y a le mythe de la rose dans le désert. Vous en avez vu, Yasmina Benari, en Égypte ?
Des roses dans le désert. J'ai vu le désert, j'en ai vu. D'ailleurs, les déserts sont magnifiques, ils sont très variés en Égypte. Il y a le désert noir, le désert blanc, il y a toutes les couleurs. Titi raconte que quand il était en prison, alors au moment où il était dans un bagne en plein désert, il n'y avait rien du tout, il ne pleuvait pas, et ils ont commencé à mettre quelques graines d'arbres et quelques trucs, il avait des rosiers lui en prison.
Ouais, c'est dingue, c'est une belle histoire. Vous êtes l'invité des Belges du bout du monde, en Égypte, le pays de Titi, le pays de votre papa, le pays du papa de Richard Ruben, qui est des nôtres aussi, jusqu'à 10h ce matin, ça nous fait plaisir de vous avoir.
Je suis très touché, parce qu'on se regarde un peu moins le nombril dans votre émission,
oui.
Même si on parle de nous. Mais... Oui.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Un petit blind test. Elle est d'origine égyptienne ?
Ah oui, Dalida.
Ah voilà, bravo.
Mais vous le regardez lui.
Elle a été Miss Égypte en 1954. Elle est née au Caire en 1933. Elle est bien plus jeune que Paul Sobol, né en 1926, et qu'Albert Harrier, lui, né...
30.
En 30, voilà. Le héros de votre film. On va jeter un petit coup d'œil sur l'histoire politique récente de votre pays, situé entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Après une antiquité très riche, un Moyen-Âge marqué par l'arrivée de l'islam, une période ottomane au XIXe siècle et un court protectorat britannique, c'est en 1952, Milan Berkmans, que le pays gagne véritablement son indépendance.
Oui, si une première révolte contre l'impérialisme britannique eut lieu en 1919, ce n'est qu'en 1936 que les dernières armées du Royaume-Uni quittent l'Égypte, mais le jeune royaume bâti sur les vestiges des dynasties ottomanes ne fonctionne pas et l'échec de la première guerre israélo-égyptienne de 1949 pousse des membres de l'armée à se révolter. Dès 1952, ce sont les officiers libres à la tête desquels on retrouve le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser.
La période Nasser, c'est celle du socialisme au pouvoir, de la nationalisation d'une grande partie des entreprises, mais c'est aussi la période de la guerre de Suez.
En pleine guerre froide, la nationalisation de ce canal qui relie la mer Méditerranée à l'océan Indien par la mer Rouge va provoquer une crise diplomatique entre la France, le Royaume-Uni Israël d'une part et l'Égypte de l'autre. Plusieurs interventions militaires vont avoir lieu en 1956 avant que l'Union soviétique et les États-Unis n'interviennent pour réclamer la fin de ces tensions. Nasser sort gagnant de cette brouille malgré d'importantes pertes militaires puisqu'il maintient son nouveau statut sur le canal de Suez.
En 1970, Nasser meurt et c'est Anwar el-Sadat, un de ses compagnons révolutionnaires de 1958, qui prend sa succession.
Avec el-Sadat, le pays change de direction et prend un tournant résolument libéral. Après la guerre de Kippour et l'offensive conjointe de l'Égypte et de la Syrie en Israël pour récupérer le désert du Sinaï, Anwar el-Sadat s'engage dans un processus de paix avec Israël, une position en rupture avec celle de Nasser, mais aussi avec le monde arabe, jusqu'ici uni contre l'État d'Israël, et une position qui coûtera cher à el-Sadat puisqu'il est assassiné en 1980.
On avance un peu dans le temps maintenant, direction janvier 2011 et la place Tahrir.
Oui, c'est le printemps arabe, hein, vous l'entendez. C'était il y a 8 ans. Des Égyptiens de toutes les classes sociales se mélangent sur cette énorme place au cœur de la capitale pour demander la démission du président Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. Une révolution qui débouche sur la démission du président et de nouvelles élections un an plus tard. Mais après l'élection du premier président civil et issu du parti des frères musulmans, l'armée prend le pouvoir en 2013 avec à sa tête le général Abdel Al-Sissi. Une révolution qui aura donc permis le retour de l'armée au pouvoir.
C'est triste.
Et cette ambiance, on l'entend, il dit que c'est triste, c'est Titi, hein, c'est tiré de votre film. Vous étiez sur place lors de ce printemps arabe, Yasmina, le 25 janvier 2011.
Oui. Bah, je vivais là-bas depuis déjà quelques années. Et c'est vrai que je me rappelle très bien que... je me rappelle surtout d'une vidéo, je ne sais pas si on en a parlé en Belgique, mais d'une jeune fille voilée qui avait fait passer une vidéo qui était devenue virale en Égypte, où elle disait « Maintenant les gars, il faut descendre parce qu'on n'a pas envie de devenir des chiens comme nos parents ». Elle avait une force, un courage incroyable, cette femme. Il y avait un truc qui passait très fort. Le 25, quand on a vu le monde dehors, on est tout de suite descendu. J'étais avec des amis et on a été émerveillés et dépassés par ce qui se passait. On n'y croyait pas.
Vous faisiez en même temps le film, hein, sur Titi. Vous avez filmé depuis son balcon, puisque le balcon est à côté de la place Tahrir. Il avait une vue directe sur les événements.
Oui, il vit dans une rue qui s'appelle la rue du Jardin, qui est parallèle à la place Tahrir. Et donc, entre deux immeubles, il a ce que moi j'avais appelé l'interstice, qui donne sur la place Tahrir. Ouais. Et donc, il regarde de son balcon ce qui se passe dehors ou à la télé. Après, il sort, il continue à aller, parce que si je dis ça, il va encore m'attaquer en me disant qu'il passe pas sa vie au balcon. Et c'est vrai. mais qu'il va encore au bureau tous les jours, bon pied, bon oeil, etc. Mais oui, non, c'était devenu trop dangereux avec les gaz lacrymogènes, etc. C'était compliqué de descendre sur la place.
À propos de danger, faire votre métier de réalisatrice, quand on est une femme en plus, dans un pays comme l'Égypte, vous avez dû filouter parfois, cacher l'appareil photo, la caméra
Oui, en fait, il faut faire vraiment attention. Bon, ce qui était pas mal, c'est que en 2011, j'étais déjà assez habituée aux rues du Caire. J'étais habituée au harcèlement, j'étais habituée au regard, j'étais habituée à une certaine manière de marcher, un certain rythme. Donc voilà, j'étais du coup assez à l'aise. La caméra est devenue un peu comme une arme pour moi, une armure. Une armure. Ça, je sentais qu'elle me protégeait. Après, c'est vrai que je faisais très attention. Je me mettais jamais au milieu de la foule. J'avais toujours une ou deux portes de sortie en arrière.
Parce que vous n'aviez pas 30 ans, enfin, vous êtes toute jeune encore, c'est une femme qui en a, hein, Richard.
Oui, dans un pays quand même très machiste, il faut dire ce qui est, avec un pouvoir qui n'est jamais très stable, même si on a un peu imposé le général Sissi, moi je ne trouve pas ça, même si Morsi est un dictateur aussi dans son genre, je pense que c'est jamais bien de vouloir façonner une pseudo-démocratie, parce que ça vous revient toujours dans la gueule. Donc quoi qu'on soit, où qu'on soit, dans ces pays-là, c'est jamais très stable. Alors si on est journaliste, cinéaste et une femme, j'imagine, et en plus de, quand même d'origine juive, en partie en tout cas.
Oui, ça s'est aussi pas aidé.
Est-ce que, mais quand on s'appelle Yasmina, ça aide à passer plus inaperçu, j'imagine.
Oui, puis Ben Ari, ça fait un peu Ben Ali. Ah, ça passait ça. Assez bien. En fait. Alors que si j'avais
pas
eu
partout.
Mon. Non, pas partout. Ça dépend où.
Un peu moins bien en Tunisie, hein, peut-être.
Oui.
Alors, on va retourner à la famille Sobol, si vous voulez bien. Nos Belges du bout du monde, installés en Égypte depuis 2 générations. On a eu tout à l'heure le papa, Paul. Voici maintenant le fiston, Alain, qui revient sur son parcours.
La première fois, effectivement, je suis arrivé ici en 1972, c'était encore en Israël. Je suis resté 6 mois et puis la ville me manquait parce que les discos, les filles, il y avait des chameaux ici à Sharm el-Sheikh.
Vous étiez tout jeune aussi.
Donc je suis rentré au bout de 6 mois, je suis rentré en Belgique et j'ai continué à travailler dans la plongée. C'était déjà ma passion, mon métier. Et je suis revenu en 1982, j'ai eu la chance... avec mon papa, qui est un des pionniers de la plongée en Belgique, de pouvoir venir comme expert pour le gouvernement égyptien, pour mettre en route les installations de plongée sous-marine qui étaient gérées à l'époque par les Israéliens. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est développé. Ça a commencé en 1982. Maintenant, oui, ça a beaucoup changé. C'était le désert. Il y avait ici à Namabé deux palmiers et aussi deux chameaux. Aujourd'hui, il y a encore des chameaux, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de palmiers, beaucoup plus de verdure, de l'herbe, des jardins, des golfs, golf à 18 trous. Effectivement, ça a énormément changé.
Quel succès story, avec dedans eh bien, des pionniers belges, votre papa et vous. Cette école de plongée qui était toute petite aujourd'hui, c'est une entreprise qui tourne. Combien de personnes travaillent pour vous ?
Autour de la société, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent, que ce soit des moniteurs de plongée. Disons qu'on a aux environs des 70 moniteurs de plongée qui tournent dans l'entreprise. On a des bateaux, donc il y a des équipages sur les bateaux. Il y a l'administration, bien sûr, la comptabilité, les réservations, la mécanique. Enfin, c'est effectivement toute une entreprise et il y a effectivement 200 personnes qui font vivre leur famille aussi. Donc, c'est vraiment devenu important. Ouais.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de Sharm El Sheikh ? Qu'est-ce qui fait que ce spot est mondialement réputé aujourd'hui ?
D'un côté, on a le golfe d'Aqaba. De l'autre côté, on a le golfe de Suez. Ça crée des mouvements de courant autour de Sharm El Sheikh. Et ces mouvements de courant amènent des espèces en abondance, disons. Et Ras Mohammed, qui est la pointe extrême du Sinaï, est considéré comme un des plus beaux endroits de plongée au monde.
Avec ses tombants vertigineux, on est ici dans une réserve naturelle.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a en mer Rouge aucun rejet d'égout à la mer, donc aucune pollution de l'homme dans la mer Rouge égyptienne.
Ce qui donne des images somptueuses. Je vous ai remis en ligne notre reportage sur lapremière.be et sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. Vous avez eu l'occasion de plonger en Égypte, Yasmina Benari ?
Oui, j'ai fait mon baptême à l'époque à Marseille et puis très vite après, je suis allée plonger surtout à Sharm et à Dahab en fait. Moi, j'aime beaucoup Dahab. Mm-hmm. Et puis, je voulais vaincre une peur parce que moi, j'avais très très peur d'être sous l'eau. Alors que, a priori, je suis poisson, enfin, mon signe astrologique, puis j'adore l'eau. Mais j'avais peur, je pensais que je pourrais pas respirer, enfin, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai adoré, j'ai fait des plongées de nuit. La seule chose que je peux pas faire encore, qui reste phobique, c'est d'aller dans quelque chose qui ne me semble pas appartenir à être, enfin, avoir de sens à être sous l'eau. C'est-à-dire, par exemple, les plongées spécifiques pour les épaves de bateaux, des choses comme ça, ça c'était pas possible, c'était sans moi.
D'accord, mais ça laisse de la place pour le reste, hein, finalement.
Oui, mais vous faites de la plongée avec bouteille ou en apnée?
Ah oui, non, en bouteille.
Ah oui.
Non, apnée.
Et vous, Richard, vous serez bientôt en spectacle à Antibes.
Quelle belle transition.
Oui, parce que Antibes,
il y a le festival du film sous-marin.
Ben oui.
Je le sais par un intrélu, c'est comme ça que je l'ai su.
Oui, puis le Grand Bleu, tout ça, voilà. Du 27 février au 2 mars.
Venez me voir, les Belges qui seraient par là.
Oui, il y a pas mal de Belges sur la Côte d'Azur.
Oui, tout à fait. Le théâtre du tribunal, en plus. J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Très beau théâtre. Et la dame qui tient ça, Fabienne Candela, elle a appris à plein de comédiens connus à jouer la comédie. C'était un vrai petit conservatoire.
Ne bougez pas, dans quelques instants, nous replongerons la tête sous l'eau. A tout de suite.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Deuxième partie des Belges du bout du monde, en Égypte, avec la famille Sobol, créatrice de la meilleure école de plongée sous-marine de la planète, Cocorico. C'est à Sharm El Sheikh, le long de la mer Rouge. Avec nous aussi, la réalisatrice Yasmina Benari pour son film Au balcon de Titi et Richard Ruben pour son nouveau spectacle Enchanté. C'est en deux mots, hein ?
Absolument.
Enchanté.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Richard Ruben, vous vous définissez comme un métèque ?
Bah oui, je dis ça souvent sur scène, c'est vrai. Bah je ne sais pas trop ce que je suis, moi je suis belge, je suis français par ma mère, donc j'ai double nationalité, j'ai rendu mon passeport anglais aussi parce que c'était trop. J'ai fait mon service en France, on m'appelait le belge, et c'est moi qui donnais le ton de la marseillaise, parce que comme je suis ténor, et j'étais le belge. Donc je suis jamais à ma place et tout le temps à ma place.
Un peu comme Moustaki en fait.
Voilà. Ouais, ouais. Et Moustaki, il faut savoir que il habitait à une rue de chez mon papa. Et il se connaissait de vue, il n'était pas connu. Et il disait toujours, ce type a 2 ans de plus que moi, mais il avait l'air toujours d'avoir 30 ans de plus. Et donc il fait partie des juifs égyptiens d'origine grecque, Moustaki.
Alors vous parlez de la Marseillaise, mais est-ce que cette musique-ci évoque quelque chose pour vous?
Ah, je sais. Le spectacle de Sam Touzani s'est terminé par une version hip-hop de la Brabançonne. Est-ce que je me trompe?
Oui,
dans One Human Show.
Voilà, Touzani, votre meilleur ami. Pourtant, vous venez d'univers complètement différent, hein, de
oui,
confession différente.
Lui, il a une histoire incroyable avec un papa qui a fait la bataille du Monte Cassino et qui a gardé 3 balles en lui toute sa vie, qui était analphabète et qui s'est engagé pour avoir un quignon de pain dans l'armée. Et lui, qui est donc berbère du Rif et qui devient le défenseur des Juifs et de tout le monde et qui se bat pour les femmes, pour leur individualité, leur indépendance et pour la laïcité, etc. Ouais. Et on s'est retrouvés sur plein de choses. On vient pas du tout des mêmes milieux, mais on a cette envie de justice et de justesse. Quand on commence à travailler, on parle d'habitude de politique pendant 2 heures, géopolitique. Et c'est un plaisir de... Là, le dernier spectacle, il m'a encore mis en scène. À part en sursis, l'avant-dernier, il les a mis tous en scène depuis 20 ans. Et je dois dire que lui, le Belge, fier d'être Belge d'origine marocaine, et moi, le Belge d'origine égyptienne, on se retrouve sur plein de choses. Et lui est le premier à défendre Gonzague en disant « Oui, mais vous devez... » Lui m'a dit « Mais Gonzague, les gens... » Le public n'a jamais eu de problème avec ce personnage. C'est plutôt le métier du spectacle. Parce que, apparemment, j'ai su si bien jouer le truc que personne n'imaginait qu'à l'époque j'avais des origines égyptiennes.
Yasmina, tu connais, dis.
C'est un Belge Gonzague, j'explique parce qu'elle.
Oui. Dire... Non, mais ça, par contre, je m'en souviens un peu.
C'est un pétu, qui, genre, sale gamin de merde, quoi, qui roule en 4x4. Tu vois, il va à l'ULB, mais juste pour frimer, quoi.
Et c'est d'ailleurs quand vous étiez étudiant que votre carrière a explosé. Vous avez rempli Forêt Nationale gamin.
À 27 ans.
Bah oui, c'est ça, tout jeune.
Ouais.
Avec le personnage à la fois de Gonzague et de Ronnie.
Absolument, qui était l'inverse. J'ai même... Allez, faut savoir une histoire. Je suis à Tel Aviv dans un appartement. Elle doit savoir ça, Yasmina, qu'il y a des fêtes en Israël où on invite 200 personnes en espérant que 80 viennent. On invite. Et on fait la fête, on connaît pas les gens. Et on amène des gâteaux et tout. Et je parle à un type. Et il me dit, je viens de Belgique. Il me dit, moi, j'ai un problème chez vous. Ah bon? Il dit, oui, chaque fois que j'arrive en Belgique et que je donne mon nom à la douane et que c'est un francophone, il éclate de rire, tout le monde se fout de ma gueule. Et je dis, comment tu t'appelles? Il me dit, Ronnie. Et je connais pas ce type. Et lui, c'est le spécialiste de l'eau en Israël.
Ah, d'accord.
Grand spécialiste, un ingénieur.
C'est Ronnie Serfati?
Non, je ne sais plus son nom de famille.
D'accord.
Ah, et il me dit, c'est à cause de moi, alors qu'il me connaît pas. Je dis, moi, j'écris un personnage. Et il y a des jeunes qui ne savent même pas qui je suis, des jeunes de 14 ans, ouais, qui disent, tiens, voilà un Ronnie, voilà un Gonzague. Ouais. Donc, c'est rentré un peu dans le langage.
Mais jusqu'à Marseille où vous vivez, on connaît un petit peu le Ronnie Gonzague, ça vous dit quelque chose, Yasmina?
Moi, oui, parce que j'ai fait mes études ici, donc
ouais, ah voilà. Mais il marche bien en France quand je le joue. Hein.
Oui, non, ça je pense que oui. Bah, les Français adorent ce fichier.
Ils m'ont aidé, hein, les autres Français, des gens comme Stéphane Groth. Vous le savez peut-être, et peut-être que non. La Belgique, c'est le pays de la syntaxe. Je le sais de ma grammaire.
Voilà, sur scène, je rends hommage à tous les Belges.
Et Jean-Claude, vous avez été le premier à imiter Jean-Claude Van Damme.
Mais pourquoi est-ce que j'ai imité Jean-Claude? Parce que mon père parle un peu comme Jean-Claude. Mon père, petit, me disait, va chercher ton linge au cleaning. Parce que mon père était élevé en français et en anglais, mais en Égypte, ce qui fait qu'il ne parle rien parfaitement. Okay, c'est pour ça que j'imite Jean-Claude, les gens ne savent pas.
Allez, retour à notre Belge du bout du monde, Alain Sobol. Son centre de plongée à Sharm el-Cheikh est aussi une école internationale très très bien cotée.
Ah oui, c'est très facile. Donc on a un programme qui s'appelle ou bien le baptême ou bien découverte de la mer Rouge, où on va faire une brève introduction technique pour expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et puis un moniteur va vous descendre gentiment sous l'eau et vous mettre en confiance et vous faire découvrir le monde sous-marin qui est effectivement extraordinaire, mais aussi vous faire découvrir la plongée. Et on espère, après cette expérience, que vous serez mordu et pouvoir éventuellement aller plus loin et prendre un cours de plongée pour devenir breveté et pour continuer à faire de la plongée.
Car chez vous, Alain, c'est une école, un collège avec des niveaux, une structure, des diplômes, donc tout ça est super organisé.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, on commence du baptême. Et puis après ça, il y a le cours débutant, qui est un cours en 5 jours. En 5 jours, on peut apprendre à plonger et être breveté. Et puis, il y a des cours de spécialité où on apprend à faire de la navigation, à se retrouver sous l'eau. On apprend à faire une plongée de nuit. On apprend... Il y a des tas de cours et on peut, en fait, aller jusque apprendre à être moniteur de plongée.
Alors, c'est une success story à votre histoire, couronnée par quelques prestigieuses récompenses. D'abord, vous avez été sacré meilleure école de plongée de la planète.
Oui, c'est exact. Le plus grand magazine de plongée anglais, qui s'appelle Diver. Et en fait, le marché anglais est très important ici à Sharm el-Sheikh. C'est pratiquement le plus grand marché. Le plus grand magazine de plongée, Diver, chaque année, demande à ses lecteurs de voter pour la meilleure marque de plongée, pour le meilleur voyagiste, pour le meilleur centre de plongée. Ça fait la 4e année que nous avons été nominés par les lecteurs de ce magazine comme meilleur centre de plongée au monde. Et en fait, on y est très fiers d'ailleurs.
Et nous, on est fiers aussi de vous, un petit Belge qui a réussi. On voit en arrivant ici sur la plage de Sharm el-Sheikh un drapeau belge qui flotte au vent. Et juste en dessous, ben voilà, c'est votre école, l'école de plongée. Dans le bureau, je vois aussi le mannequin Peace.
Oui, exactement. C'est un ami qui m'a donné ça il y a longtemps. On avait un centre de plongée où on avait une piscine pour rincer le matériel de plongée. Et on a mis le mannequin Peace sur la piscine et il faisait pipi sur le matériel de plongée pour le rincer. Mais c'était de l'eau, évidemment.
Un petit clin d'œil qui n'empêche pas, sérieux aussi, puisque je vois que vous êtes consul honoraire de Belgique. Il y a la plaque officielle ici à l'intérieur. C'est une reconnaissance, ça aussi.
Oui, effectivement. J'ai toujours été, depuis que je suis ici, depuis 28 ans, la liaison entre Sharm el-Sheikh dans le désert et l'ambassade au Caire. Et on m'a officialisé il y a de ça 3 ans comme consul honoraire de Belgique ici à Sharm el-Sheikh.
Ah, Richard Ruben, vous avez déjà joué dans des consulats ou des ambassades?
Je crois
en
que
Égypte,
j'ai dû tout faire maintenant. Ouais. Non, j'aimerais bien aller jouer. Oui, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais il ne faut pas aller chercher si loin. Un jour, on m'appelle pour faire un spectacle dans une synagogue à Arlon. Je dis, mais j'ai le droit. Il faut savoir que mon régisseur, il s'appelle Hassan. Et moi, je suis très laïque. Je suis très fier de mes racines, mais je m'en fous un petit peu des religions. Je suis très, comme disait Armand Delcamp, même si tu ne crois pas au sacré, tu aimeras d'autant plus le sacré. Donc, c'est vrai. Moi, j'adore le sacré, mais je n'y crois pas, mais j'adore. J'adore aller dans une synagogue. Si on m'invite dans une mosquée, j'y vais. Et Hassan, mon régisseur, me dit, tu es obligé de mettre ta kippa pour faire ton spectacle. Hassan. Je dis merci à Sani, il m'a dit oui, tu dois respecter quand même. C'est ça que j'adore, c'est cet écuménisme. Je suis peut-être bisounours, mais laissez-moi ce côté bisounours. Et donc j'ai joué ce spectacle un dimanche, c'était une journée porte ouverte. Et c'était fabuleux, il y avait des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un lieu de culte de leur vie, il y avait de tout. Et puis là où je viens de jouer ma série à l'Espace Mag, le musée juif m'y avait envoyé pour la commémoration de l'attaque du musée juif. On a pensé que j'étais le meilleur lien entre toutes les communautés. J'aime pas dire communauté parce que j'aime pas le communautarisme. En tout cas, les gens qui se regroupent sous une identité, je dirais. On parle d'intercommunautarisme et pas de multicommunautarisme.
Oui, mais je suis content aussi de vous avoir en face de Yasmina Benari, qui est un autre univers artistique, du cinéma plus pointu. Mais vous découvrez Richard Ruben et vous avez l'air bluffé par ses paroles.
Ah, je bois du petit lait. Mais les hommes sont fascinants.
On va écouter M, là aussi, il y a un lien, oui, évidemment,
égyptien.
Avec bah oui, le fils de Louis, le petit-fils d'André, avec un extrait de son nouvel album, c'est magnifique, qui s'appelle Super Chérie, sur la première.
Les Belges du bout du monde, sur la première, Adrien Jouvenot.
C'était M, le petit-fils d'André Chédid, femme de lettres égyptienne dans Les Belges du bout du monde entre Le Caire et Sharm el-Sheikh avec la réalisatrice Yasmina Benari pour son film Au balcon de Titi, Richard Ruben pour son nouveau spectacle Enchanté et Alain Sobol pour son centre de plongée sous-marine.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jouvenot.
Oui.
J'en ai besoin de en parler. Alexandre et Alexandra.
Ah ouais, voilà, on fait un petit blind test.
Voile sur les filles. Partent sur le Nil.
Ça, je savais pas que vous alliez nous chanter.
Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras.
Alexandrie, Alexandra, Claude François, né à Ismaïlia, en Égypte, un petit peu avant vos parents, j'imagine.
Et moi, quand j'entendais sa maman parler, Choufa, J'ai l'impression que c'est ma grand-mère, quoi. C'est pour ça que je me suis toujours demandé si Claude François n'était pas un juif honteux ou un truc, parce que déjà le nom est tellement suspect, Claude François. Je veux dire.
Vous avez fait une tournée aux États-Unis, je me suis laissé dire ça.
On va pas aller dire jusqu'à tourner, mais j'ai joué aux États-Unis.
C'est vrai. Et vous jouez votre spectacle en anglais?
J'ai écrit un spectacle en anglais. Je viens de mettre un peu en parenthèse parce que c'est un amusement d'abord, et comme celui-ci était assez lourd à préparer avec Sam Touzani, je vais y revenir.
Qu'est-ce que ça fait Trump dans votre bouche? Enfin, si j'ose dire.
Everybody knows that I fuck Europe, I fuck China, and I fuck the world. I fuck women, I fuck me too. In fact, I fuck myself, and I like it. It's fucking amazing.
Me too. Merci beaucoup, Richard Ruben, à voir dans Enchanté un peu partout en Wallonie.
Et le 16 mai au Centre culturel Duclos. Ah. C'est une très belle date avec une nouvelle création Lumière qui va être assez importante.
À côté de la clinique Edith Cavell.
Oui, absolument.
Vous avez
une résistante.
Oui, aussi, en plus. Bah, dites donc.
Oui, où j'ai vu le jour. Oui.
On a plein de références historiques aujourd'hui. On va retourner chez notre ami Alain Sobol, hein, le fils de Paul, le résistant, comme Yasmina et Richard Ruben. C'est un bosseur. La réussite pour lui, c'est du travail et des rencontres.
La réussite, c'est le fruit des rencontres et c'est le fruit du travail. Personnellement, j'aurais pas pu réussir si je n'avais pas été entouré, si je n'avais pas rencontré des gens du monde entier.
Et 99% de travail, 1% de talent, comme disait Jacques Brel.
100% de travail et pas de talent.
Brel que vous avez rencontré dans votre magasin.
Oui, Brel que j'ai rencontré, en fait, il était venu acheter du matériel de plongée pour mettre sur son bateau quand il partait aux Marquises. Et il y a une anecdote, c'est qu'il avait acheté un compresseur et je m'étais entraîné à faire démarrer ce moteur à essence tous les jours pendant une semaine. Et ça a fonctionné du premier coup. Et quand il est arrivé, eh bien, j'avais beau tirer sur la manette, le moteur n'a jamais démarré. Et Jacques Brel m'a dit, t'inquiète pas, mais c'est toujours comme ça.
Brel qui dit aussi, l'homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller de l'autre côté de la colline. Comme vous, hein, Richard Ruben, Brel, un personnage récurrent dans vos spectacles.
Oui, je l'ai toujours fait un tout petit peu, mais dans le spectacle, il y a le musicien Tom DeWatt qui joue avec moi, qui joue de 8 instruments, qui me met au défi, dit, mais tu parles de la Belgique, tu n'imites pas Brel? Non, il n'y a pas besoin, le public se demande quoi. Et il me met au défi de... Je fais 21 chansons de Brel en 1 minute 20.
Ah oui, d'accord.
C'est un numéro incroyable. Ah, donc on a monté ça, ce qui n'est pas facile au début. Et 21 chansons de Brel, c'est un espèce de délire. C'est, pour moi, il y a un succès. Brel a donné plein d'enfants. Il a inspiré plein de gens, comme tous les génies. Il a un fils que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le fils de Brel, vous allez tomber des nues, c'est Benoît Poelvoorde.
Ah oui.
Il y a cette indépendance, cette folie, un petit peu cette destruction, cette poésie. En tout cas, Poelvoorde est un des fils de Brel, j'en suis intimement convaincu. Jusqu'au costume cravate, avec la cravate dénouée de Poelvoorde, il y a quelque chose de brélien chez lui.
Oui, il y a acteur aussi. Hein, si voilà. Oui, c'est vrai. Il a aussi chanté.
Il a ce côté désespéré, comme dans L'Emmerdeur. Il y a ce petit côté comme ça. Bon, il est un peu plus bouillonnant. On va pas se faire emmerder par Jacques Brel quand même, ça fait 40 ans qu'il est mort, c'est chiant à la fin.
Vous le tenez très bien, Poelvoorde. Franchement, chapeau. Allez, un petit mot sur les perspectives d'avenir, côté politique, maintenant en Égypte. Vers quoi se dirige-t-on, Milan Berkmans?
Eh bien, après des décennies d'amitié avec l'URSS et un revirement soudain vers Washington, fin des années 70, mais aussi des liens forts avec le monde arabe, pendant toute une série d'années, l'Égypte a pris la présidence de l'Union africaine le week-end dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, le signe que le pays veut renforcer ses liens avec le reste du continent. Mais derrière ce changement de cap, il y a évidemment des enjeux stratégiques forts, comme la question des eaux du Nil, la situation sécuritaire dans la mer Rouge et la menace terroriste à la frontière avec la Libye. Et puis cette présidence de l'Union africaine, c'est aussi l'occasion de montrer que l'Égypte n'est pas juste un pays tourné vers lui-même, mais également à la recherche d'union avec les pays voisins.
Merci Milan Berkmans. Un commentaire, parce que vous avez fait Sciences Po avec une spécialisation sur le monde arabe. Les présentations de Milan...
Tip top.
Ah, très parfait, bien. On peut le garder.
Oui, hein. Je pense que vous pouvez le garder. Son prénom est très bien en plus.
Oui. Alors, il parlait de la montée des eaux. Ça tombe bien, ça va nous ramener à votre film. Je propose d'écouter un petit moment du film. Quand vous demandez à Titi pourquoi il est devenu agronome.
Pourquoi tu penses que tu as fait ce métier, de faire pousser les plantes?
La prison. Le désert, faire quelque chose dans le désert. Tu sais, quand tu... Le désert devient verdoyant. Tu te rends pas compte, c'est la nature qui change. dans l'oasis de Khargat, nous étions là. Il n'avait jamais plu. Et quand on a planté des arbres, même, c'était pas extraordinaire, il n'y a pas beaucoup d'arbres, on a commencé à planter, il a plu. Je pense maintenant ils doivent le voir, maintenant, parce que c'est devenu une région. Région de culture. L'air, le sable a besoin d'eau, c'est tout. Une fois qu'il y a l'eau, tu as. Oui, l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que la civilisation a apparu toujours au cours le long des fleuves. C'est le berceau de l'humanité, pratiquement. À l'époque, la civilisation était dans le Moyen, dans le Proche-Orient, en Inde, en Chine, et l'Europe était au stade des cavernes.
Magnifique de sagesse, hein, et ses propos sont justes. Hein, voilà, la vallée du Nil, c'est là qu'il y a la vie, c'est l'eau.
Ouais, il y a deux choses en fait là-dedans. C'est à la fois le souvenir, parce que c'est quand même quelqu'un de très nostalgique. Donc c'est le souvenir aussi, paradoxalement, de l'époque de prison qui était à la fois très dure et en même temps très belle, parce que tous les communistes s'alliaient, ils ont alphabétisé les gardiens qui savaient même pas ni lire ni écrire. Enfin, il y avait une espèce d'élan très beau. Donc c'est à la fois la nostalgie de cette époque et puis aussi de se dire qu'il va disparaître et il sait pas très bien ce que va devenir son pays en fait. Aussi, il y a ça. Ouais.
Avant que votre film se termine, vous allez avec lui vers un pick-up et il sort cette musique. J'imagine qu'il ne l'a pas choisie par hasard.
Elle est formidable. Joan Baez.
Oui. Mmh.
Ben ça, c'est un amour qu'on a en commun. Parce que musicalement, je dois dire, on n'a pas du tout les mêmes références. Et lui, il adore Nana Mouskouri, par exemple. Mais Joan Baez, on l'aime tous les deux inconditionnellement, très très fort, depuis que je suis toute petite en fait. Et donc lui, il a quelques cassettes à la maison, c'est pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, et le gros de ses cassettes, c'est Joan Baez. Et donc il me dit, mets ça. Et voilà.
Avec une chanson aussi sur un personnage important.
Oui, Sweet Sir Galahad, ouais. Qui a aussi qui est passé par la prison. Il a une fascination pour cette femme au-delà de ce qu'elle raconte en fait, au-delà de son engagement.
En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. On est passé un peu du rire aux larmes. On a eu des moments de fou rire, on a eu des moments de réflexion, on a eu des moments de profondeur. Merci à vous trois. Merci Milan Bergmans. Merci beaucoup Richard Ruben. Vous avez découvert sous un autre jour. Je suis très content que vous ayez...
Ah ben je suis très touché. Je suis un peu cueilli, je dois dire, aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis moi-même spectateur de l'émission. Ça veut dire qu'on prend autant d'intérêt à...
Ouais.
C'est comme si on assistait derrière la vitre et on est aussi acteur. L'émission.
Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Vous aussi, Yasmina Benhari. Émission réalisée par Paul Michel, déjà disponible sur ovio.be. La semaine prochaine, nous débarquerons sur d'autres rives de la Méditerranée, en Turquie, chez Sandrine Rambou, qui aide les femmes réfugiées syriennes à créer leur entreprise à Istanbul. Sacré challenge, il y a du boulot. D'ici là, restez fidèles à la première. Dans un instant, le journal parlé de 10h, puis les décodeurs RTBF avec Marie Van Kutsem. Excellent dimanche à toutes et à tous.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.